Are you racing or watching?
La dispute. Ce soir, le spectacle vivant. Cette émission est préparée par Justine Dibling, Virginie Ledio et Boris Pinault. Prise de son assurée ce soir par Élise Le, réalisation signée Olivier Guérin. Et ce soir, Elisabeth Franck-Dumas et Philippe Chevillet se font face. À notre affiche, la règle du jeu, d'après le scénario de Jean Renoir, mise en scène de Christiane Jataï à la Comédie Française, salle Richelieu. Scène de la vie conjugale, d'après Ingmar Bergman, mise en scène de Saphine Bou. Au théâtre de l'œuvre, nous évoquerons plus rapidement le misanthrope de Molière, mise en scène Clément Hervieux Léger dans les salles de cinéma. À vif de Kerry James, mise en scène Jean-Pierre Barrault en tournée. Tristan, texte et mise en scène Éric Vignier au théâtre de Gennevilliers. Vers 21h20, Lucille Comeau nous entraînera dans le petit salon pour parler des 60 ans de représentation quotidienne de la cantatrice chauve au théâtre de la Huchette. Et Lucille Comeau passera enfin l'émission un coup de fil à Romaric Daurier, le directeur de la scène nationale Le Phénix à Valenciennes, pour parler du festival cabaret de curiosité qui aura lieu du 28 février au 3 mars. Et puis bien sûr encore des cadeaux à gagner grâce au jeu de la dispute ce soir. Les invitations pour le spectacle Mayday de Dorothée Zumstein, mise en scène Julie Duclos à la Colline. Ce seront des places à gagner pour jeudi 23 février 20h30, un spectacle dont nous parlerons d'ailleurs lundi prochain dans la dispute. Et direction pour commencer la salle Richelieu pour un des paris faits par l'administrateur Éric Ruff en proposant à la metteur en scène brésilienne Christiane Jataï de venir monter un spectacle salle Richelieu à la Comédie Française. Nous avons déjà parlé du travail de cette metteur en scène brésilienne et de ses revisitations mêlant théâtre, cinéma et performance à partir de Mademoiselle Julie, Les Trois Sœurs et Macbeth. Cette fois, elle a choisi d'adapter le film de Jean Renoir, La Règle du Jeu, sorti en 1939. Qui est une sorte de marivaudage pessimiste, même s'il est inspiré de Musset et de ses Caprices de Marianne, transposé en son temps par Renoir dans La Bonne Société Parisienne, qui se retrouve pour un week-end de chasse en Sologne avec Marie, femme, amant et maîtresse.
Alors, on va faire Summertime de Gershwin. Jackie va chanter Summertime, elle a fait Langue vivante 2 en vrai.
C'est bien un extrait de La Règle du Jeu, il n'y a pas eu d'erreur en régie, évidemment pas. La Règle du Jeu, selon Christiane Jataï à la Comédie Française. Philippe Chevillet, vous commencez à nous parler de ce spectacle et de vos impressions.
Alors moi, c'est un spectacle qui m'a beaucoup, beaucoup plu, même si j'ai quelques réserves. Je pense que c'est un spectacle, comme vous disiez, suggéré au début, audacieux, parce que à la fois, on fait appel à une jeune metteur en scène brésilienne qui est peu connue, on l'imagine, du public des Français. Ensuite, là, il s'agit pas des damnés, même si c'est un monument du cinéma. C'est là, il s'agit de La Règle du Jeu, monument du cinéma français. Même s'il est inspiré du théâtre, c'est quand même un film qui, pour certains, est intouchable. D'une certaine façon, ce spectacle conjugue le cinéma qu'on avait vu dans Les Damnés et puis le théâtre de plateau qu'on avait vu dans Vania. Mmh. Puisque cette metteur en scène donc a choisi objectivement de prendre de faire du cinéma et du théâtre en même temps, ce qui est différent quand même des Damnés, parce que dans Les Damnés on avait du théâtre comme du cinéma comme appoint d'une certaine façon, même s'il y avait pas mal d'écrans et tout ça, mais c'était du cinéma en tant qu'appoint. Là elle a voulu vraiment mixer les deux, et donc on se retrouve avec à peu près un gros tiers de cinéma, puisque ça commence sur le rideau de scène, la projection, ça se termine par du cinéma, et on a au milieu une forme de théâtre qui est presque du stand-up. Donc c'est vraiment le grand écart entre le cinéma et le théâtre. Et en même temps, alors tout ça, comment ça fonctionne, parce que si on parle de la règle du jeu, on se dit mais pourquoi est-ce que c'est un exercice de style? C'est ce que je trouve assez fort dans cette mise en scène, c'est la transposition, les transpositions qu'il a pu faire. Et la première transposition, celle qui d'où tout découle, c'est le fait de choisir de faire le manoir en Sologne, de le transposer en fait dans un hôtel particulier parisien qui est la Comédie Française. Et pourquoi il y a du cinéma et pourquoi il y a des caméras? Parce que le marquis, qui est le héros de la règle du jeu, ne collectionne pas et n'est pas un amateur d'horlogerie de tomates, il est un amateur de cinéma. Et donc, dès le départ, il le suggère, il le dit, je vais tout filmer. Et il va tout filmer, au point que lorsque justement, quand il y a des scènes qu'il aurait bien aimé ne pas le filmer, c'est pas lui qui les filme, c'est quand il a passé sa caméra. Donc il y a cet élan assez juste qui est créé dans la transposition. Et après, il y a une véritable, je trouve, joie de voir ces comédiens français qui crèvent l'écran et qui s'enfoncent dans la Comédie Française, parce qu'ils vont changer dans leur chambre, qui sont en fait les loges. Ensuite, il y a cette partie de chasse dans la règle du jeu, qui n'est pas évident de faire une partie de chasse dans la Comédie Française,
non,
qui se transforme en une chasse aux domestiques, aux femmes transformées en lapins. Donc c'est quelque chose d'assez glauque et assez terrible. Et après, on déboule sur le plateau. Alors c'est là que tout se passe, et que parce qu'encore les gens sont un peu effrayés par le film, enfin ils sont pris par le film, et là on voit tout d'un coup quasiment du stand-up avec les comédiens qui nous prennent à partie, parce que au fond nous faisons partie des invités. Et c'est étonnant de voir, quand on regarde d'ailleurs certaines scènes du film, notamment de la fête, de voir que le public dans la salle, quand il est content, réagit à peu près comme dans le film, parce qu'il y a pas mal de petites scénettes. Ce film quand même est un monument, mais c'est un film qui est quand même un peu barré aussi, on peut le dire.
Ah oui, oui.
Et donc moi j'ai été séduit par tout ça, par la façon dont les comédiens français maintenant peuvent tout faire, et par le final cinématographique, où je trouve que là on voit des comédiens ou des comédiennes comme Suliane Brahim éclater à l'écran, et je trouve que le pari est tenu. J'aurais quelques réserves, mais je les réserve.
Je voulais garder pour tout à l'heure. Elisabeth Franck Dumas, premières impressions sur cette règle du jeu version Jataï.
Alors moi ça m'a laissé très perplexe, parce que je suis d'accord sur certains aspects avec Philippe Chevillier. C'est vrai que ces comédiens sont formidables, ça on le sait. Moi j'aurais une petite mention spéciale pour Serge Bagdasarian qui est formidable dans son rôle de stand-up. C'est vrai qu'il y a des choses intéressantes dans la transposition. Il y a notamment un jeu dedans-dehors, intérieur-extérieur, initié-étranger, qui était déjà présent dans le film de Renoir. On se souvient qu'il y a la personnalité. Il y a l'étrangère d'abord, la châtelaine,
Geneviève,
et puis non seulement ça, mais de manière un peu plus fine, il y avait quand même cet intrus qui était Jurieux, qui n'est pas du même monde que tous les autres et qui en paiera le prix d'ailleurs, qui sera dégagé comme on sait. Enfin, je ne vais pas révéler pour nos auditeurs qui n'auraient peut-être pas vu le film. Il y a toutes ces choses-là qui sont intéressantes. Bon, cette étrangère qui s'attaque au monument qu'est la Comédie Française, qu'est-ce qu'elle va en faire? Elle va nous montrer les coulisses, les loges, etc. Bon, une fois qu'on a dit ça, moi j'ai quand même trouvé l'exercice un petit peu vain. Je trouve que le film, alors d'avoir fait un... Le problème n'est pas tant qu'elle s'attaque à un chef-d'œuvre, ni même qu'elle fasse 26 minutes de film à la Comédie Française, pourquoi pas, mais la comparaison n'est pas vraiment flatteuse, évidemment, entre le film de Renoir et le sien. Il y a d'abord un problème de suspension volontaire d'incrédulité qui fait que dans les loges de la Comédie Française, nous on voit des loges, on voit pas des chambres. Enfin, il y a tout un tas de problèmes comme ça qui s'accumulent. Il n'y a pas de jeu avec la profondeur de champ, il n'y a pas du tout cette maestria qu'il y a dans le film de départ. Je suis d'accord avec vous sur la scène de chasse. On se dit comment est-ce qu'elle va s'attaquer à ce monument, à ce morceau de bravoure, et je trouve que finalement elle arrive à créer une sidération qui ressemble un petit peu à la sidération qu'on a pu avoir dans le film, même si le trait est beaucoup plus appuyé, c'est pas la même époque. Ça, c'est une des réussites du spectacle. Après, je trouve que sinon, qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, on nous met à la place des spectateurs de cette bonne société française de 1939. voilà, nous sommes spectateurs de la petite comédie qui est en train de se jouer, de la même manière que les aristos et les grands bourgeois étaient spectateurs dans le film de Renoir. Mais qu'est-ce qu'on est en train de nous dire là, en fait? Parce que le film d'origine, il y a quand même une charge d'une violence incroyable sur cette société qui dansait alors que le monde s'écroulait, sur fond de petites remarques antisémites à droite à gauche. Et là, alors c'est nous qui sommes à cette place-là. Je trouve que ça commence à devenir un tic. C'est drôle parce que les damnés le faisaient, Macbeth le faisait également. Et je trouve que de constamment revenir au spectateur de théâtre pour le mettre en accusation, à la fin, c'est quand même un petit peu lassant. Et puis, on a envie de se dire, bon, est-ce que vraiment la première population à mettre en accusation aujourd'hui, c'est le spectateur du français qui vient voir un spectacle de Christiane Jadaï? Je ne sais pas. Et en fait, qu'est-ce qu'elle dit? Qu'est-ce qu'elle dit de plus que ça? Les intrigues amoureuses sont finalement prises vraiment au premier degré, alors que dans le film, justement, c'est l'inconstance, c'est le marivaudage, c'est la légèreté de tout qui était terrible. Enfin, l'impression qu'on en tirait est abominable. Et là, en fait, ces intrigues amoureuses sont prises tout à fait au sérieux. Je trouve que on voit à peu près ce qu'elle a voulu faire, mais je trouve que ça ne tient pas. Je trouve que ça s'effondre. Il y a des moments quand même où on s'ennuie. Et puis, comme le remarquait très judicieusement mon collègue Philippe Lançon, qui a été plus généreux avec le spectacle que moi, pour ceux qui ne connaissent pas le film, alors là, qu'en tire-t-il? Vraiment, je me pose la question.
Très bel article de Philippe Lançon, une fois encore,
oui,
sur la règle du jeu. Lucille Comeau, vous avez vu ce spectacle à la Comédie Française, La règle du jeu?
Moi, je suis très d'accord avec ce que dit Elisabeth. Moi, je me suis beaucoup ennuyée. Je trouve que l'audace dont parle Philippe, alors moi, je ne l'ai pas vue du tout, parce que justement, ce mélange, ce travail sur le théâtre et le cinéma, je ne le vois pas. C'est-à-dire qu'il y a une partie filmée, donc c'est un film, on est dans la salle, il fait noir, on nous projette un film sur grand écran, qui est un film classique, entre guillemets. Il n'y a pas beaucoup d'inventions dans la manière de faire ce film. Bon, il se trouve que c'est dans la Comédie Française, mais ça pourrait très bien être ailleurs. Après, on a une partie de théâtre, qui est une partie vraiment théâtrale, avec quelques petits morceaux de vidéo, mais c'est pas très travaillé non plus. Et puis à nouveau une partie filmée, donc ça fonctionne vraiment en trois parties. Donc déjà, du point de vue formel, je vois pas vraiment l'audace. Et après, sur le fond, je suis d'accord avec Elisabeth, je vois pas vraiment l'intérêt, je vois pas vraiment de propos. En effet, le film est très corrosif, il y a quelque chose de très violent. Là, cette violence, moi, ne m'a pas du tout frappée, je trouve qu'il n'y en a pas. À la limite, la mise en accusation du spectateur, je trouverais ça intéressant. Quand il commence à prendre à partie vraiment le spectateur, bon, on va peut-être pas tout révéler, mais à le faire participer d'une manière qui peut être humiliante, on peut le dire comme ça. J'ai trouvé ça intéressant, je me suis dit, ah là, peut-être il va se passer quelque chose dans le rapport scène-salle qui va bousculer un petit peu ce qui est en train de se passer. Finalement, ça retombe dans une sorte de jeu de comique un peu banal. Vraiment, je ne comprends pas ce qu'on a voulu faire avec ce spectacle, ni ce qu'elle a voulu faire, ni ce que la Comédie Française a voulu faire en l'invitant, en lui faisant faire ça dans la salle Richelieu, dans cette salle extrêmement symbolique, extrêmement célèbre. Alors, en dehors de la performance des acteurs qui, en effet, est impressionnante, mais moi, j'ai pas de fascination particulière pour les comédiens du français, donc c'est vrai que les voir en nombre défiler à l'écran, en gros plan, ça me fascine pas tant que ça. Ça a pas suffi à susciter un vrai intérêt de spectateurs, ni de cinéma, ni de théâtre, chez moi.
Alors, avant de revenir vers Philippe et ses réserves, quand même, en pointer quelques choses que vous avez déjà peut-être évoquées, mais pas toutes. Moi, Christiane Jadaï, en fait, moi, mes impressions sont toujours mitigées. C'est-à-dire que ces spectacles, j'adhère jamais tout à fait à ces propositions, mais par contre, ce qu'elle tente souvent m'intéresse sur le parti pris, sur le principe. Ça, en premier lieu, donc, quand même, moi, je me réjouis que la Comédie Française s'ouvre à des propositions de cette nature, malgré tout, même si j'ai effectivement des réserves dessus. Je pense qu'il y a quand même un cœur des effarouchés pour dire que ce spectacle n'a pas sa place aux Français, que c'est vraiment un déshonneur.
Alors que là n'est pas le problème.
Non, mais...
Il ne bouscule rien du tout.
Oui, mais enfin, vous pouvez le lire dans quelques colonnes, ma chère Lucille. Donc, c'est bien qu'on ait des racines en tunique et qu'on ait des règles du jeu en mode karaoké, comme on l'a entendu dans l'extrait. La relecture sur le principe, là aussi, c'est vrai que André Jurieu, dont vous parlez, est dans le film de Jean Renoir, ce héros qui traverse l'Atlantique en avion, en fait, par amour pour Geneviève, la femme du marquis. Il traverse la Méditerranée, il sauve des migrants, et ce n'est plus une Autrichienne, c'est une Marocaine qui est la maîtresse de maison. Mais sur le principe, pourquoi pas? Je trouve que ça, effectivement, ça ne va pas beaucoup plus loin, comme que la fête devienne un karaoké. beaucoup trop long à mon sens. Moi, je suis d'accord avec vous sur la partie de chasse. J'avoue que transformer les domestiques en gibier, enfin où ils jouent le jeu des gibiers, je trouve ça vraiment assez effrayant et très bien vu. Mais bon, je reviendrai sur le cas des comédiens et des comédiennes. Mais sur les histoires d'amour, c'est curieux parce que, comme dans le film de Renoir, il me semble que le rôle moi un peu sacrifié, c'est justement celui de Christine, la femme de Robert. C'est pas Geneviève, hein, c'est Christine. Je me suis trompé tout à l'heure. Celle qu'aime André Jurieux. Et là, il me semble que Suliane Brahim a un peu de mal quand même. Non, c'est. Oh, je me trompe toujours, c'est Geneviève. Oh, je sais plus.
Non, c'est la maîtresse Geneviève.
C'est la maîtresse de.
C'est Elsa Le Poivre.
Alors, Elsa Le Poivre. Bon, qui a quand même cet abattage, cette classe, et en même temps ce côté gouailleur qui là va quand même plutôt très bien au personnage.
Elle est géniale.
Suzanne Brain est beaucoup plus effacée, je trouve qu'elle a quand même du mal à emporter le morceau. Mais vous aviez des réserves, Philippe Chevillier.
Oui, mais d'abord je voulais quand même dire que
défendons.
Voilà, je trouve aussi. Quand même que c'est pas tous les jours qu'on se retrouve d'abord dans la salle Richelieu avec cette proposition d'envahissement du français par les comédiens, ce passage brutal du théâtre au cinéma, cet effort de transposition, parce qu'encore une fois, il y a une chose aussi qu'on peut dire, c'est qu'un film et un scénario de film, on peut pas vraiment le comparer. On peut comparer une mise en scène, deux mises en scène d'Hamlet, mais un film et au théâtre, après, on en fait ce qu'on veut. Et moi, alors, je trouve que dans le propos, il y a quand même cette dimension qui est présente d'ailleurs dans le film aussi. Il y a deux vitesses, puisqu'il y a un côté quand même comédie, il y a de l'humanisme. C'est pas Renoir, il fait pas que démolir la bourgeoisie. Il y a un délitement de bourgeoisie auquel on assiste, mais il y a aussi des personnages. Il y a des moments de joie et tout ça. Et moi, ça, je trouve qu'on les ressent ces moments. Et puis moi, les réserves que j'avais à faire, c'était justement sur la partie improvisée stand-up qui est un peu longue, et il y a des moments très forts comme celui de Serge Bakhtiarian qui chante Nono Letta et qui s'effondre dans sa fraise, et là ça crée une espèce d'ambiance incroyable, comme Elsa Le Poivre qui débarque sur scène complètement ivre, et je trouve ça vraiment ça formidable. Moi j'ai beaucoup aimé aussi Jérémy Lopez dans le rôle du marquis, j'ai aimé Suzanne Brahim parce que je trouve qu'elle prend vraiment une dimension romantique, etc. Donc je mélange un peu tout là, la défense non, et les non, mais c'est pas grave. Moi le reproche que je ferais fondamental, c'est que comme on est pris quand même par cet exercice qui est tellement d'ailleurs bien fait, puisqu'on a à chaque fois, toutes les transpositions sont là, parenthèse, le drone à un moment donné dans le film, on voit il présente son automate voilà, c'est, donc y a, en tout il y a une transposition, et une transposition moderne dans le fait qu'on mette un Schumacher devient un noir, devient tous les problèmes du jour, le racisme sont mis en avant, tout ça est très bien fait, mais à un moment donné c'est vrai que ça frise peut-être un peu l'exercice de style, et que du coup on perd ça, je veux bien le reconnaître, on est un peu fasciné par l'exercice, et qu'à la fin on se dit, bon, on voit bien qu'il y a un délitement de la bourgeoisie, on voit bien, mais que ça manque un petit peu de profondeur dans le propos et de cette radicalité évidemment, ou de cette menace qu'il y avait dans le film. Ça, je suis d'accord.
Il manque du tragique social surtout. On a la dimension mélodramatique.
C'est débauché. Alors, et en plus, alors je dirais, et là je vais un peu aussi me contredire, c'est que d'une certaine façon, c'est vrai que moi j'ai trouvé que c'était quand même gonflé de faire ça, et je le maintiens, et en même temps, les gardiens du temple, moi je feuilletais récemment un beau livre sur la comédie française, où je vois des images de spectacles des années 70, où il y a eu quand même des choses aussi assez baroques, donc c'est pas non plus une révolution, simplement c'est vrai que c'est bien qu'Éric Ruff y tente des choses avec des gens qui sont avec les ratages qu'il peut y avoir, mais je trouve ça intéressant. Voilà.
Oui, Elisabeth Franck Dumas.
Non, mais là, je suis entièrement d'accord avec vous. Bien sûr qu'il faut tenter. Après, sur les transpositions réussies, je ne suis pas tout à fait d'accord. Bon, on peut trouver les images ou les parallèles plus ou moins habiles. Je trouve que le casting de Laurent Lafitte est très habile.
André Jurieux, oui.
Dans le rôle de l'outsider, justement, c'est-à-dire qu'il apporte
du héros en dépit amoureux.
Physiquement et par son histoire de comédien et par ce qu'on sait de lui, il apporte quelque chose au rôle de l'outsider qu'il a moins, je dirais, dans le personnage, parce que sinon, il se fond très bien avec les autres, ce que le personnage du film faisait moins. Mais là où je ne suis pas d'accord, c'est qu'en fait, vous n'évoquez que les transpositions, je dirais, thématiques ou les transpositions narratives. Mais il y a la forme. Et en fait, c'est quoi l'idée de reprendre un film? On ne reprend pas juste l'histoire. Un film, ça n'est pas qu'une histoire. Il y a une mise en forme, il y a des jeux, il y a de la profondeur de champ. Il y a tout ça. Et on a l'impression qu'en fait, ça n'existe pas. Alors, quand on reprend un film, on ne reprend que le scénario. Et alors, quel est l'intérêt? Ça, c'est une question. Pour l'instant, j'ai pas encore vu de réponse vraiment convaincante de, tiens, comment est-ce qu'on peut faire aussi formellement cette transposition? Et là, dans la forme, non, je trouve que ça ne va pas. Et bon, notamment, elle se tire une balle dans le pied en utilisant la vidéo.
Mais elle tente des choses, en revanche. Elle tente des choses, puisqu'elle elle tente de trouver ses plans, de faire des...
Et elle reproduit le même côté aussi un peu fou et foutraque et éclaté qu'il y avait. Mais je trouve que la réponse à cette question formelle n'est pas convaincante.
Oui, mais alors, le problème, c'est que le goût premier de Christiane Jatahi, elle l'a souvent dit, hein, c'est le cinéma. C'est quand même son désir d'origine. Et il me semble, moi, que la partie cinéma amène beaucoup plus de tension et d'intention, d'ailleurs, que la partie théâtre. Et donc ça, pour moi, c'est là qu'est davantage le problème, parce que ces 26 minutes inaugurales, elles ont une forme, alors une forme qui tente une fluidité, un faux plan séquence assez habile, voilà, mais pas non plus à se relever la nuit. La scène de chasse étant beaucoup plus forte, et elle mêle pour le coup théâtre en direct et c'est théâtre et cinéma en direct. Et ça, c'est plutôt habile. La fin est plus simple aussi, mais ce qui me gêne, c'est que le cinéma l'emporte. Alors, on a vu parmi les toutes premières représentations, moi je suis curieux de voir comment le spectacle peut évoluer au mois de juin et si la partie théâtre va relever un peu le défi, Philippe Chevillier.
Alors moi, ce que je trouve un peu moins bien réussi dans la partie cinéma, c'est justement ce cinéma en live. C'est-à-dire que comme il se passe énormément de choses dans la salle et que quand même les gens et le public, à mon avis, doivent être assez secoués de voir, d'entendre Dalida, Nonoleta, etc., on a tendance à pas trop regarder ce qui est projeté en fond de scène et justement qui sont les scènes un peu cruciales qui étaient découvertes à la lunette dans le film et qui, justement, ce que je disais tout à l'heure, qui sont filmées, qui devraient pas être filmées, mais qui sont filmées et qui permettent aux protagonistes de se dire tiens, il me trompe, etc. Mmh. Donc c'est vrai que cette partie-là, m'a un peu déçu, donc la partie cinéma et live qui devrait justement faire la liaison entre les deux. C'est une réserve que j'avais.
Oui, parce que les projections, notamment sur les éléments de décor de Roméo et Juliette, voilà, ce qui est un jeu assez amusant avec ce qui est aussi c'est la comédie française, et on retrouve les mêmes comédiens d'ailleurs, Suliane Brahim, Jérémy Lopez, pardon, et Laurent Lafitte, notamment dans ces deux productions. Effectivement, si on a le film assez fraîchement en tête, on voit, je suis d'accord avec vous, Philippe Chevillier, qu'on ne voit pas forcément tout et que là, je pense qu'il y a des mises en place encore à effectuer sur la partie théâtre. Lucille Comeau.
Oui, parce qu'en fait, il y a vraiment énormément de choses. En vous entendant en reparler, c'est vrai que j'avais oublié presque certains détails. Et ça me fait vraiment penser qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses, mais ça ne produit rien. Et il y a vraiment une sorte, en effet, de vanité, c'est difficile à dire, mais vraiment quelque chose de vain dans cette espèce d'exubérance, notamment de partie théâtrale, où il y a énormément de personnages sur scène qui sont tous occupés à faire des choses différentes en même temps. Et il n'y a pas d'effet de sens, où il y a vraiment un décollement total entre la forme et un sens qui n'existe pas. Par ailleurs, sur les transpositions, moi, j'avais eu le même problème, je crois qu'on en parlait avec vous, c'était vous qui étiez là, Elisabeth, déjà, quand on avait parlé du précédent spectacle de Christiane Jatahi, qui était un spectacle inspiré de Shakespeare, avec à nouveau des références actualisées sur le monde d'aujourd'hui, sur notre propre impuissance politique, aussi des questions justement de migrants,
qu'est-ce qu'on fait avec cette question-là.
Oui, mais j'ai retrouvé cette même frustration d'entendre une espèce de propos plaqué sur le contemporain à un objet autre qui ne parle pas de ça, et qui ne produit pas vraiment ni de sens politique, ni de sens tout court, et qui est assez agaçant, finalement, je trouve.
En tout cas, c'est vrai que le point commun avec Macbeth, c'est que je trouve qu'il y avait une espèce de virtuosité, quand même, aussi, de moyens, et qui, finalement, tombait à plat, s'arrêtait en cours de route. Je trouvais qu'il y avait quelque chose d'éblouissant jusqu'aux deux tiers de la pièce, et puis tout à coup, voilà, patatras, ça s'effondrait un petit peu, et on se disait, il y a quelque chose d'un peu inabouti, et je trouve que dans ce spectacle-ci, également, il y a quelque chose d'inabouti.
Philippe Chevillier,
inabouti peut-être, mais la transposition, elle est là, elle représente, si on veut transposer un film des années 30 aujourd'hui, on se retrouve avec les problèmes de racisme, on se retrouve effectivement, il y a le problème, le héros d'aujourd'hui, c'est peut-être celui qui sauve des migrants, tout ça peut paraître un peu simple, mais ça permet de quand même de propulser le film aujourd'hui. Alors quand on entend général, au début, c'est vrai qu'il y a des moments d'écalage, je ne peux pas tout transposer, que c'est parfois trop joli pour être honnête, cette transposition, je le reconnais, mais néanmoins, moi, ça m'a fait sens parce que je trouve que j'ai ressenti cette décadence, cette forme de... et en même temps, cette espèce de fausse joie et d'un monde menaçant. On le ressent quand même différemment et pas abouti, mais c'est quand même un spectacle pour moi qui m'a marqué. Je ne me suis pas ennuyé une seconde.
Il y a un moment où ça marche très bien, ce dont vous parlez, la transposition. C'est à la toute fin, lorsque Schumacher et Marceau sont dehors sur la place Colette, devant le corps de Jurieux, et que l'un dit « Ouais, moi j'étais d'accord avec lui ». Il y a un espèce de... Là, on sent la tension sociale et la lutte, et je trouve que ce plan-là fonctionne très bien. Alors, ça ne marche pas toujours.
Pour finir, justement, comme je n'avais pas été le plus tendre avec Jérémy Lopez pour son Roméo, je dois dire qu'ici, il propose autre chose que Dalio, ce qui est tant mieux, hein, mais qui fait quelque chose d'assez nouveau avec ce personnage de Robert. Et là, j'ai vraiment trouvé assez affûté. Et puis moi, je suis fasciné par Eric Genovese, qui joue justement Marceau, le rôle qui était tenu par Carette, le contrebandier. Et là, il est transposé en SF, SDF un peu macro, et je trouve absolument fascinant Eric Genovese. Je ne sais pas comment il fait. Et
c'est
était
le seul
donc aussi
qui a un petit peu d'étrangeté, justement, qui inspire un vrai malaise.
Qui avait le pire personnage des damnés aussi. Enfin, il a quand même quelque chose
à Eschenbach.
C'est comme ça qu'il s'appelle. Voilà, Eric Genovese. Respect. La règle du jeu, d'après le scénario de Jean Renoir, mise en scène Christiane Jataille, la comédie française Salle Richelieu, en alternance, bien sûr, jusqu'au 15 juin.
France Culture.
La dispute.
Arnaud Laporte.
À suivre dans la dispute, scène de la vie conjugale, le misanthrope à vif, Tristan, le cabaret des curiosités au Phénix de Valenciennes, mais tout de suite, le petit salon. Tiens, il est 9h26, nous avons mangé de la soupe, du poisson, des pommes de terre au lard, de la salade anglaise, Lucille Como.
C'est le menu de Monsieur et Madame Smith, on en a beaucoup parlé à la fin de la semaine dernière, puisqu'on a fêté les 60 ans de la représentation de la Cantatrice Chauve au Théâtre de la Huchette. Le Théâtre de la Huchette se situe dans le 5e arrondissement de Paris, dans la rue du même nom. C'est un petit établissement privé de 90 places, et tous les jours, donc depuis 1957, on peut aller voir la même mise en scène de la Cantatrice Chauve à 19h, et enchaîner, si on le souhaite, avec une autre pièce de Jeanne Ionesco, La Leçon, à 20h. La mise en scène est toujours la même, celle de Nicolas Bataille, créée en 1950 au Noctambule, reprise depuis son décès il y a quelques années par Roger Desfossé. Bon, les acteurs ont changé, bien sûr, mais le jeu reste sensiblement le même et les soirées affichent complet. Qui va voir aujourd'hui la Cantatrice Chauve au Théâtre de la Huchette? Alors, il y a beaucoup de touristes. Le lieu est devenu un incontournable au même titre que certains monuments parisiens, certains même pas francophones, mais aussi beaucoup de jeunes et surtout des groupes de scolaires. J'ai moi-même assisté à la représentation lorsque j'avais une douzaine d'années, c'est-à-dire en fait à la seule période aujourd'hui où on lit et où on entend vraiment du Ionesco au collège et au lycée. Ionesco est en effet devenu un classique de la littérature scolaire, souvent étudié dans un vaste mouvement qu'on appelle théâtre de l'absurde, avec Beckett et Adamov dans une cohérence esthétique assez douteuse qui disparaît souvent totalement après à l'université. Sur les bancs des facs, Beckett, lui, reste dans toutes les bouches. Il y a beaucoup de thèses qui lui sont consacrées. Il était au programme de l'agrégation il y a peu. Ionesco, lui, disparaît complètement. Et ce phénomène se retrouve peu ou prou dans le circuit de la représentation théâtrale en France. On joue beaucoup les pièces courtes de Ionesco dans des petits théâtres, dans les troupes amateurs, dans les offs des festivals, dans certains petits théâtres privés, comme celui de la Huchette, mais il est presque absent des grandes scènes et des festivals publics. Jugé trop simpliste, souvent didactique, conservateur, daté, associé à une pratique scolaire ou amateur, le répertoire de Ionesco dans les années 80 à 2000 était tout à fait marginal sur les planches. Il y a bien eu une cantatrice à la Comédie Française, justement en 90, sous la direction de Jean-Luc Boutet. Et puis surtout, il y a eu le travail mené par Jean-Luc Lagarce en 91 sur la même pièce, sur la Cantatrice Chauve, qui a été un succès. Il a été remonté plusieurs fois depuis. Alors, est-ce un effet de l'influence de Lagarce ces dernières années? Il semble qu'on assiste à un retour timide de Ionesco, sous l'impulsion aussi d'Emmanuel de Marcy-Motta au Théâtre de la Ville, dont la mise en scène de Rhinocéros créée en 2004 avait connu un premier grand succès. Il l'a reprise ensuite dans une nouvelle production, même succès. De Marcy-Motta défendait ainsi son choix. Ionesco a abordé avant tout le monde des thèmes devenus cruciaux, la contamination idéologique, la violence masquée, l'effondrement du langage et la montée d'une novlangue du monde dominant, un univers sous surveillance mené par la peur. Lagarce lui disait dans une interview en 92 « Lorsqu'on parle de Ionesco aux gens de ma génération, ils sont absolument atterrés, mais moi je trouve que la Cantatrice Chauve est une vraie pièce, une machine à faire du théâtre. Comment expliquer que le théâtre de la Huchette en ait obtenu une sorte de monopole ?»
Alors, monopole pas complet, hein, vous l'avez dit, Lucille Comeau, qui a... Alors, moi, je n'ai jamais vu cette production du Théâtre de la Huchette. Bon, si je joue encore une dizaine d'années, je vais peut-être y arriver. Vous l'avez vu, Elisabeth Franck
Dumas ? On va y aller ensemble, Arnaud Laporte, si vous l'avouez. Moi aussi, je peux l'avouer.
Ah bah,
non,
oui.
J'en ai vu d'autres, et celle-là, jamais.
Bon.
Je ne sais pas si c'est un défaut de notre part ou de nos parents. On va y aller ensemble.
On va y aller ensemble. Philippe Chevillier, vous l'avez vu ?
Je pensais que vous alliez m'oublier, mais non, je ne l'ai pas vu non plus.
Ah, ben, on va tous les trois.
Ah, c'est fou.
Ah, j'ai pas vu. Avec Lucille Comeau qui l'a vu.
Voilà.
Ça date un petit peu. Ouais,
vous aviez quel âge ?
12 ans, je pense. 12-13 ans.
Ah, voilà. Il y a 10 ans.
Début collège.
Les parents.
Hein,
au collège.
Bon, donc nous avons les avis sur d'autres pièces de Ionesco. Alors, j'imagine que par contre, vous avez vu de Marcy Motta, La Garce, repris par François Béreur. Les dernières fois, on s'en parlait avant l'émission. C'était son
Théâtre à Théâtre de Jouvet. Avec des talk show et de.
Un décor magnifique.
Un décor extraordinaire. Ça, c'était vraiment très. Non, alors c'est amusant, il y a quelques semaines, dans les colonnes de Libération, deux universitaires américains ressuscitaient Rhinocéros au regard de Donald Trump et expliquaient qu'on pouvait, on pouvait totalement analyser le phénomène Trump en se servant de Rhinocéros. Non seulement la montée du populisme, mais surtout l'espèce de conformisme qui prend comme ça dans cette société, qui se met à acclamer ce monstre grotesque. Et peut-être que finalement, Ionesco va revenir au goût du jour. C'est vrai qu'il y a toujours quelque chose quand même, il y a un trait assez épais, il y a un absurde qui est politique, pas dans toutes ces pièces, mais quand même dans pas mal d'entre elles. Et ben là, on va peut-être arriver à un moment Ionesco, on sort de la réelle politique et Ionesco va revenir sur le devant de la scène.
Il y a pas mal de quoi faire dans plusieurs pays. Hein.
Oui.
Rhinocéros peut marcher et peut être comparé à pas mal de pays, hélas, à l'heure actuelle. Philippe Chevillier sur Ionesco.
Oui, je suis d'accord avec Elisabeth. Je pense que, et ce que disait aussi Lucille sur ces mises en scène, finalement, quand on les ajoute, je me dis que ça porte assez chance à... Parce que là, quand Tritri chauve de La Garce, je crois qu'il y en a une de Pelli que j'ai pas vue, mais qui...
Ah, ça doit être bien.
Qui doit être...
Forcément.
Qui doit être
en
bien.
En Pelli, ça doit bien lui aller.
Et par ailleurs, le Rhinocéros, c'était quand même un spectacle qui envoyait, comme on dit, c'est vraiment parce que c'est un spectacle, c'est très spectaculaire. Les chaises avec Michel Escaut et Dominique Raymond de Bondy, c'était pas mal non plus. Donc,
ouais, enfin, oui, on fait un peu la grimace.
Bon, moi, j'avais trouvé ça plutôt pas mal, et je me dis au fond, par rapport à certains autres auteurs qu'on a parfois des difficultés à faire ressurgir, même si on avait vu Antigone d'Anouilh qui était plutôt bien, la Comédie Française qui était
très bien. Oui, qui monte Anouilh aujourd'hui.
Justement, ça avait été joué une fois, c'était par Marc Paquin, mais on sent qu'il avait vraiment fait un travail et très important pour ressusciter cette pièce. Je trouve que Ionesco, sur ses tubes, finalement, on peut aujourd'hui les jouer et que ça nous parle d'aujourd'hui. Voilà. Et puis, accessoirement, je trouve que c'est bien ce rite, même s'il y a des soirs avec des touristes, c'est un petit côté Phantom of the Paradise, là où on jette du riz. Et tout,
oui, un soir quand t'as très chaud, un soir Michou, enfin on peut faire une tournée comme ça. Mais Emmanuel de Marcy Motta ressuscite un texte de Camus bientôt, hein, quasiment jamais joué, donc on ira voir ça à l'espace Cardin pour le théâtre de la ville. Il a ce goût-là aussi d'aller explorer, comme il avait quand il a repris le Dumas, pardon. Rappelez-moi cette pièce sur la finance, merci. Vous allez tous
m'aider.
Le Balzac, le faiseur. Je crois que j'ai dit Dumas. Qui peuvent effectivement nous raconter des choses sur aujourd'hui. Bon, alors on doit tous les trois trouver une date dans nos agendas pour aller à la Huchette. Hein.
Voilà, et pour ensuite le chroniquer lors de l'émission.
Absolument. Bientôt une dispute consacrée à la cantatrice chauve à la Huchette. Allez, quelques recommandations des critiques présents ce soir. Philippe Chevillier est prêt, il a saisi sa bonne petite feuille pour nous parler de Aviv de Kerry James.
Fiche.
Je suis allé plusieurs fois au rond-point pendant que ce spectacle s'y jouait, mais jamais pour le voir lui. Bon, hélas, il y avait toujours une foule, et une foule de spectateurs qu'on ne voit pas forcément souvent dans les salles de théâtre.
Ah bah c'était un phénomène, il y avait les jeunes qui aiment le hip-hop et qui aiment Kerry James, il y avait des jeunes de banlieue, il y avait des jeunes femmes voilées, c'est un mélange assez étonnant. Kerry James, je l'avais vu en 2012 au Bouffe du Nord.
Ouais, moi aussi, oui.
Et déjà, j'avais trouvé que représenter du hip-hop en costard avec juste un percussionniste et un peu de musique derrière en live, il y avait une vraie force de son... de son propos, de son. Et là, donc, du coup, il a eu envie, avec Jean-Pierre Barrault qui fait la mise en scène, il a eu envie de passer à une forme théâtrale. Et donc, on retrouve les mêmes thèmes de Kerry James. Ce qui est assez amusant, c'est que c'est un concours d'éloquence entre deux avocats. Lui, il joue Soleiman, et en face de lui, il a un acteur qui est Yannick Lahens, je crois.
Yannick Lahens, c'est un acteur.
Voilà,
un bon acteur,
c'est lui, qui joue le personnage de Yann. Donc il y a le petit bourgeois blanc et il y a le noir de banlieue. Et l'astuce, c'est que le noir de banlieue est amené à défendre la thèse, évidemment qu'on n'attendait pas, puisque la question, c'est: l'État est-il le seul responsable actuel de l'état de nos banlieues? Et donc Kerry James Soleiman va défendre l'idée que non, il n'est pas le seul responsable, qu'il faut prendre ses responsabilités, qu'il y en a assez de la victimisation, alors que l'autre va tenir un discours beaucoup plus à gauche. Alors après, tout ça va un peu se mélanger, on va avoir leurs vies qui vont s'en mêler, le racisme latent qu'il y a de la part de Yann, les difficultés de vie de Soleiman, et à un moment donné, il y a même un rap, et à la fin, ils se retrouvent tous autour de la lettre à la République, qui est très dure. Le propos est intéressant parce que c'est à la fois un propos anticolonialiste, antiraciste, et en même temps, encore une fois, l'idée que la victimisation, c'est pas bien, qu'il faut se prendre en main, et que céder à l'argent facile, comme ça se fait parfois en banlieue, c'est pas bien non plus. Alors, et à la fin du spectacle, tout le monde debout, en train d'applaudir, et c'est amusant de voir comment tout d'un coup se passe dans la tête des jeunes l'idée que une pièce de théâtre, ça va plus loin qu'une chanson, parce qu'on a, c'est une vraie discussion, une vraie mise en perspective plus large. Donc voilà, moi j'ai été saisi par ce spectacle qu'on peut voir
en tournée. Ça continue au mois de mars, le 21 mars à Bourg-en-Bresse, le 24 à Alfortville, le 6 avril à Thaon-les-Vosges, le 4 mai à Châteaubriant, le 16 mai à l'Espace 1789 de Saint-Ouen, 17-18 mai à la Maison de la Musique à Nanterre. On retrouve les dates évidemment sur le site franceculture.fr à la page de la dispute. Alors un peu partout, le théâtre au cinéma, on avait évoqué le fait que la Comédie Française avait passé...
Je vais reparler de théâtre, cinéma et de Comédie Française pour bien montrer que je n'ai pas de problème avec l'idée en tout cas. Je vais vous parler de la reprise d'une mise en scène qui date je crois de 2014, formidable mise en scène de Clément Hervieux-Léger, du Misanthrope, qui est reprise en ce moment même à la Comédie Française à Paris jusqu'au 26 mars et surtout du 27 février au 30 juin dans les salles, dans environ 300 salles Gaumont et Pathé en France. Donc pour tous ceux qui n'ont pas la chance de venir à Paris voir cette mise en scène, eh bien ils pourront se rattraper au cinéma dans une captation, ma foi, excellente, qui marie bien plan large, gros plan, plan moyen. Alors c'est presque la même mise en scène, c'est-à-dire que on retrouve Éric Genovese qui remplace un rôle qui était tenu par Éric Ruff, celui de Philinte. En revanche, c'est encore Loïc Corbery qui joue Alceste, ouais. Serge Bagdasarian, on parlait de lui, qui est formidable en Oronte également. Et alors cette mise en scène se déroule sur le palier d'un hôtel particulier en réfection, une symbolique qui n'échappera à personne, plus ou moins notre époque, mais pas trop appuyée. Et c'est amusant parce qu'en regardant la captation, je me suis souvenu qu'à l'époque, les 5 premières minutes m'avaient un peu fait peur. Ça commence lentement, on se demande ce qui se passe. Les personnages marchent sur scène, jouent 3 notes de piano. On se dit bon, ça commence pas comme ça de manière pétaradante comme la plupart du temps chez Molière et particulièrement avec le Misanthrope. Et puis, ça se met en place avec une fraîcheur, un brio, une vérité, une importance surtout, absolument formidable, pas seulement le jeu des acteurs, mais également les va-et-vient sur ce palier d'hôtel particulier. C'est génial et c'est une manière notamment de faire découvrir cette pièce qui peut être, je dirais, d'un abord peut-être un peu moins facile que d'autres pièces de Molière. Je pense notamment au public plus jeune. Voilà, dans des centaines de salles de cinéma partout en France, et je trouve que c'est une excellente initiative. C'est pas la première. Hein.
Ils ont fait Roméo et Juliette.
Voilà, mais là c'est très réussi, ça vaut la peine. Donc renseignez-vous à partir du 27 février jusqu'au 30 juin, allez dans vos salles Pathé ou Gaumont les plus proches.
Et si vous pouvez, aller à la Comédie Française jusqu'au 26 mars, que je joue cette même production, donc je le signale également. Et puis moi, mon coup de cœur, c'est pour Tristan, une mise en scène d'Éric Vignier, l'ancien patron du Centre Dramatique National de Lorient, sur un texte qu'il a lui-même écrit, ce qui était son premier texte. C'est son premier texte pour le théâtre, il signe également les décors et les costumes, comme à son habitude. Il avait été créé à Lorient, donc il y a 2 ans, il avait été peu joué, je l'avais vu à Reims. Il revient à partir de demain, jusqu'à dimanche, au théâtre de Gennevilliers, faut pas le rater, parce que donc Éric Vignier est reparti du mythe de Tristan et Iseut pour l'interroger aujourd'hui avec de très jeunes interprètes. Bon, la légende, c'est, vous la connaissez, de Rustan, qui est envoyé par son oncle, le roi Marc, chercher Iseut pour l'épouser. Mais bon, les deux jeunes gens tombent amoureux ayant bu le filtre d'amour. Donc évidemment, ça se passe très très mal. Un très bon souvenir de ce spectacle. Et alors, curieusement aussi, parce que d'abord j'ai eu peur. Pendant 10-15 minutes, peur de ne pas aimer ce spectacle d'Éric Vignier, qui est un metteur en scène pour lequel j'ai la plus grande estime. Mais le début de Tristan, c'est déjà une façon en fait, de jouer avec le spectateur, de jouer avec le mythe, de jouer avec ses représentations. C'est la première intelligence de ce texte et donc de ce spectacle, de faire croire à un moment qu'il est ce qu'il n'est pas. En fait. Et donc ce Tristan va s'avérer drôle, profond, joyeux, mélancolique. Tout ça, c'est lié au texte, à la mise en scène et aussi aux interprètes. Bon, il y a Bénédicte Cerruti qui est toujours excellente. Et puis de jeunes gens, qu'à l'époque je découvrais pour ma part, Alexandre Ruby, qui est absolument irrésistible. Et puis Zoé Schellenberg, vous en avez vu parler il y a peu de temps, puisqu'elle jouait Chimène dans le Cid, monté par Yves Bonnen. Donc là, elle est Iseult, Zoé Schellenberg, elle est absolument émouvante. Donc Tristan, texte et mise en scène d'Éric Vignier, du 21 au 26 février, au théâtre de Gennevilliers.
France Culture.
La dispute.
Arnaud Laporte.
Le deuxième sujet véritable de cette dispute spectacle vivant ce soir, c'est Scène de la vie conjugale, d'après Ingmar Bergman, mise en scène Safinebou au Théâtre de l'Œuvre avec Laetitia Casta et Raphaël Persona. C'est au départ une mini-série pour la télévision suédoise, diffusée en 6 épisodes en 73. Ça a duré 5 heures, ça a été remonté sur 2h30 pour une exploitation en salle de cinéma dans le reste du monde. Ce sont les débuts à la mise en scène de théâtre de Safinebou, qui est un cinéaste que j'aime beaucoup d'ailleurs, qui a adapte donc l'adaptation avec l'aide de Jacques Fieschi, qui réduit les personnages au couple central, Marianne et Joanne, mariés depuis 10 ans lorsque le rideau se lève et qu'on va suivre par séquence jusqu'à 20 ans plus tard. On a évoqué les caprices de Marianne, là on va dire que ce sont plutôt les caprices de Joanne.
La fidélité, je me demande si la fidélité peut être autre chose qu'une évidence. On ne peut pas se promettre de rester fidèle, la fidélité existe ou n'existe pas. Mais ça me plaît d'être fidèle à Joanne. Voilà pourquoi je suis fidèle. Mais j'ignore évidemment si demain ou dans 2 semaines, ce sera pareil.
L'avenir, si j'y pensais, je serais paralysé de peur. Non, je pense qu'il faut mettre au point une technique qui permette de vivre et d'être satisfait de sa vie. Parce qu'il faut vraiment faire un effort pour ne pas s'angoisser de tout, tout le temps.
L'amour. On ne m'a jamais vraiment dit ce que c'est. Et je ne suis même pas sûre qu'il faille le savoir. Je pense qu'il suffit d'être aimable avec son compagnon. La tendresse, c'est bien aussi. L'humour, la tolérance, la camaraderie. Ne pas attendre de l'autre des choses extraordinaires. Et vivre ensemble, plus simplement, plus tendrement. Et si on arrive à tout ça, l'amour n'est plus tellement important. Tu ne crois pas ?
Eh bien si, la règle du jeu commence par un film de 26 minutes, Scène de la vie conjugale commence par une vidéo de 5 minutes et c'est un extrait de cette vidéo qu'on vient d'entendre. Je dis vidéo parce que je l'ai présentée comme telle. Hein. Les deux personnages sont certes à l'écran, mais les comédiens sont aussi sur scène, dans la pénombre et muet. Et puis on a leurs deux visages en gros plan, face caméra, qui échange ces quelques propos pour faire le point du couple à ce moment-là, c'est-à-dire au moment où débute cette histoire écrite par Ingmar Bergman. Elisabeth Franck Dumas.
Oui. Alors vous faites la comparaison avec la règle du jeu.
Non, pardon. C'est pour expliquer l'extrait qui était un peu particulier.
Il y a une ambition, il y a un projet. Après, on a dit ce qu'on en pensait, mais de s'attaquer à un chef-d'œuvre et voir comment ce qu'il aurait à nous dire aujourd'hui, le démonter, le remonter. Ce qui est étrange là, surtout vu les forces en présence, Safi Nebbou et Jacques Fieschi, c'est qu'on a l'impression que c'est un projet totalement opportuniste, où il est plus question de l'objet de cinéma initial. Tiens, il y a ça, il y a des dialogues qu'on pourrait utiliser. On va monter une pièce avec des gens connus. Enfin, j'exagère, mais c'est vraiment l'impression que ça donne, parce que c'est le degré zéro de la mise en scène. Voilà, une espèce de baie vitrée qui s'ouvre sur un ciel d'hiver avec des boîtes en bois qui bougent sur scène. Bon, il n'y a rien. D'ailleurs, la vie ne rentre jamais dans ce spectacle. Il est beaucoup plus court que n'était le film à l'origine, même s'il semble 10 fois plus long. Mais donc, le texte a été découpé et la vie, le hors-champ, enfin, tout ça ne rentre jamais, finalement. Alors que, justement, ce qui faisait la beauté du film d'origine, c'est que c'était ça respirait la vie, c'était la vie, voilà, en tout cas la vie de ce couple, mais la vie qui était saisie. Là, c'est froid, il n'y a rien, il y a des dialogues qui s'enchaînent pendant 1h30, découpés en, je ne me souviens plus, 6 parties, enfin ouais, ça c'est respecté. C'est respecté, et tout semble absolument mort, il n'y a pas de direction d'acteur, les comédiens sont très plats, ça n'évolue pas. Alors au début, on se dit, tiens, Laetitia Casta donne un peu son texte comme une bonne élève, comme une petite fille, mais c'est un choix, voilà, c'est un choix de mise en scène, c'est ce qu'on a eu envie de faire dire à son personnage, et en fait non, puisque ça reste comme ça, elle reste la même du début à la fin. Personnage se débat comme un beau diable pour faire exister la chose et faire exister son personnage, et ma foi, il y arrive un petit peu mieux, mais je ne comprends pas je comprends pas ce qui a présidé à la décision de monter monter cette pièce, de se servir de ce film, de voilà, je vais pas non plus y passer des heures parce
non que... Je résume, vous avez beaucoup aimé Elisabeth Franck Dumas. c'est une synthèse que je propose. Philippe Chevillier.
Est-ce que je vais être moins dur? Moi
c'est facile d'être moins dur.
Oui, mais je pense que c'est quand même un spectacle qui est raté, il faut le dire. C'est très difficile de s'attaquer à cette matière de scène de la vie conjugale dans un théâtre, dans un petit théâtre comme ça doré et comme le théâtre de l'œuvre, parce que comme les héros sont des personnages bourgeois, tout de suite ça devient un drame bourgeois. C'est très difficile de sortir de ça. Et moi, je n'avais vu une mise en scène de scène de la vie conjugale à Créteil par Ivo Van Hove, évidemment. Pas tout à fait la même chose, mais on était dans le jeu. Il y avait plusieurs dimensions, 3 couples à la fois, un jeu très naturel. Là, il y a quelque chose de terrible, c'est que quand on voit les 2 vidéos au départ, on les trouve plutôt pas mal. On se dit, tiens, il y a quelque chose qui se passe. Et dès qu'ils se mettent à parler, ça passe pas, ça va pas. Alors, ils font pas des grands écarts de justesse, mais ils jouent très plat, et complètement guindés, compassés, et je parle pas de la gestuelle. C'est-à-dire que quand, à un moment donné, on demande à Laetitia Casta de faire une sorte de roulade, on a l'impression qu'elle compte on a l'impression que tout est figé, qu'ils sont pas entrés dans le spectacle. Et du coup, on voit pas du tout le côté subversif, quand même, de ce texte qui parle de sexe, de l'absence de désir, et qui en plus n'est pas seulement un texte, parce que par moments il y a une sorte de cynisme qui ressort, qu'on perçoit quand même, qu'on ressent, et il n'y a pas que du cynisme dans ce texte, il y a de l'émotion, il y a de l'humanité. Cette humanité elle tarde vraiment vraiment à sortir. Donc il n'y a pas grand chose à sauver. Le décor, ma foi, je ne l'ai pas trouvé trop laid. Moi, je l'ai même plus trouvé assez beau, ce ciel d'hiver avec les oiseaux.
Il faut dire qu'on ne peut pas faire grand chose au théâtre de l'œuvre. C'est un tout petit plateau, il n'y a pas de dégagement. C'est toujours un décor unique et minuscule.
Non, mais c'est très difficile.
Il est fonctionnel, le décor.
Il est fonctionnel. Je me disais qu'en fait, en dehors d'un théâtre de plateau, justement, là où on joue l'instantanéité, c'est très difficile de prendre ce texte. Donc, fallait, à mon avis, c'est difficile de le jouer là. Mais bon, de bout en bout, moi, je me suis un peu ennuyé. Et en même temps, moi, je me dis que le théâtre de l'œuvre, c'est bien qu'il continue à faire des tentatives de textes comme celui-là. Enfin,
oui, c'est une nouvelle direction, on le rappelle.
Voilà, donc c'est...
Dans ce théâtre.
On peut avoir des pièces avec des vedettes de cinéma qui soit réussi. Là, c'est raté. Je pense qu'il y a mis du cœur, qu'il y a mis vraiment, qu'il y a travaillé dessus, mais qu'il n'a pas trouvé. Il a essayé de trouver une distanciation. Il y a une distanciation, mais c'est pas la bonne, quoi.
Voilà. Alors, moi, c'est vrai que encore une fois, j'ai beaucoup d'estime pour le travail de Safi Nebbou, et Jacques Fieschi, c'est quand même pas n'importe qui non plus pour cette adaptation. Alors, le projet, vous parlez de, quel est le projet? Je crois que c'est une réduction Sauf que, comme en cuisine, hein, ça prend ou ça ne prend pas. Mais le problème, il est écrit par Safi Nebou dans sa note d'intention. Le jeu d'acteur est ici indissociable de la mise en scène. Bah, c'est tout le problème. Vous l'avez dit, je ne vais pas souligner cela encore, mais c'est vrai que le niveau de jeu de Laetitia Casta ne permet pas d'accéder à la complexité du rôle de Marianne, enfin d'explorer vraiment ce rôle. Voilà, Raphaël Personnaz est peut-être un peu plus intéressant, mais le spectacle et cette réduction et ce jeu gomme absolument toutes les aspérités du film, de la relation du couple. Bon, il y a d'autres personnages aussi dans le film, forcément, mais c'est vrai que le film, c'est vraiment une lame de rasoir, et là, on a l'impression qu'on est devant quelque chose de très, très émoussé, ce qui est extrêmement dommage. Est-ce que ça peut s'améliorer? Ça devrait jouer jusqu'au 30 avril au Théâtre de l'Œuvre. J'imagine que la production a été montée relativement rapidement, je le pense aussi, même peut-être que c'est un projet ancien de Sophie Nebout, hein, je ne préjuge pas du tout, mais nouvelle équipe de direction, voilà, une belle affiche aussi pour cette nouvelle aventure de Théâtre de l'Œuvre. L'affiche ne fait pas tout, encore une fois.
Non, et puis je pense que alors, ça serait injuste de ne charger que les comédiens. Je pense qu'il y a un problème aussi dans le texte qui a été, enfin dans ce qui a été retenu finalement du film d'origine, dans le fait qu'il n'y a aucune interrogation sur le moment qu'on est en train de vivre maintenant. C'est quand même un film, enfin une série télé et puis un film qui chroniquait un moment bien particulier de l'éclatement de la cellule familiale, des relations de couple. Bon, et là, on fait comme si tout ça n'existe pas. La vie n'existe pas, le contexte, l'époque n'existe pas.
C'est un peu hors sol,
hein. Aussi pour ça que c'est extrêmement froid. C'est pas seulement à cause des comédiens qu'on a certes pas très bien dirigé.
Scène de la vie conjugale, d'après Ingmar Bergman, mise en scène Safi Nebout, jusqu'au 30 avril au Théâtre de l'Œuvre. Avant de conclure l'émission par un coup de fil, passé à Romaric Dorier, le jeu de la dispute rappelle le jeu de vendredi soir d'abord, Lucille Como, question, réponse.
Question, la compagne d'Élie Lothar est aussi photographe, de qui s'agit-il? Et réponse, Germaine Krull.
On en parlera mercredi soir de l'exposition d'Élie Lothar au Jeu de Paume, oui, Krull. On fait gagner ce soir des invitations pour un spectacle qui s'intitule Mayday, mise en scène par Julie Duclos à la Colline. C'est une représentation des places pour la représentation de jeudi soir, 23 février, 20h30. Un spectacle dont on va parler lundi prochain dans la dispute. La question, Lucille?
Et on en parlait la semaine dernière. Le précédent spectacle de Julie Duclos, Nos Serments, était librement adapté d'un film culte de la Nouvelle Vague. Lequel?
Votre réponse avec vos coordonnées postales à envoyer à auditeur franceculture@radiofrance.com. Place à présent au coup de fil de la dispute.
Hello. 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 Hello.
Ce soir, le coup de fil de la dispute va au Phoenix, scène nationale de Valenciennes. Romaric Dorier, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes le directeur du Phoenix depuis 2009 et vous êtes aussi avec Herman Lugan, un des deux commissaires artistiques du festival Cabaret de Curiosité, un festival dédié à la création contemporaine qui a lieu tous les ans au Phoenix. Cette saison, ce sera du 28 février au 3 mars, 4 jours donc, avec 14 spectacles, dont une dizaine de créations. Tous les ans, vous choisissez un thème de travail. Il y a eu la catastrophe, il y a eu les aliens, la fin de la démocratie. Cette année, c'est Pratique des communs. Comment est-ce que vous avez déterminé ce sujet-là?
Alors, la pratique des communs, je pense que c'est l'aboutissement en fait d'une réflexion qu'on a depuis 8 ans, depuis 2009, avec l'équipe du Phoenix et puis aussi avec les artistes qu'on accueille, avec une génération d'artistes en particulier. Et je crois que le thème de la pratique des communs, ça a commencé pour nous avec la question des esthétiques relationnelles à la fin des années 90. Il y a le livre de Nicolas Bourriaud qui nous avait beaucoup marqué, et puis la rencontre avec certains artistes qui considèrent l'art comme ce qu'on pourrait appeler une sorte d'état de rencontre. Il y a eu aussi la rencontre avec une théoricienne américaine qui a été importante pour nous, qui s'appelle Claire Bishop, et qui étendait cette question de l'art relationnel aussi à des questions de dissensus, à des manières aussi de ne pas être d'accord. Et on a vu émerger toute une génération d'artistes qui s'intéressaient plus simplement à des écritures de plateau, c'est-à-dire ce qui discret dans le vase clos de la salle de théâtre, mais plutôt il s'intéressait à ce que j'appelle des écritures de contexte, c'est-à-dire une capacité à travailler avec tout le contexte social, esthétique, l'économie, la production, le rapport au territoire, le rapport avec certaines parties de la population aussi, les masses médias qui se développaient beaucoup plus, l'environnement technologique, l'architecture de la salle, enfin bref, tout ce qui entoure le texte, tout ce qui constitue ce contexte, et ça a été l'émergence d'une génération d'artistes à la fois en France et en Europe qui sont en train de travailler sur nouvelles esthétiques qui sont très intéressantes.
Alors on va peut-être prendre un petit exemple pour rentrer un peu dans le concret du festival. Je prends au hasard le premier spectacle qui ouvrira le festival le 28 février, qui s'appelle Un lapin quelque chose d'autre, qui est une création de Dominique Guillot et Maëva Kounsi. Quelle forme de mise en commun, par exemple, est-ce qu'il propose? Est-ce que c'est du domaine de la forme? Est-ce que c'est dans le discours que ça se joue? Romaric Daurier.
Oui, alors je pense que c'est les deux. Je pense aussi que c'est une famille esthétique liée beaucoup à l'Amicale de production qui sont artistes associés au Phénix. Pour nous, le spectacle Germinal que vous avez certainement vu ou que certains auditeurs ont vu, pour nous, ça a été notre équivalent du premier ready-made sur ces écritures de contexte. C'est-à-dire d'un seul coup, sur un plateau nu, naissait une écriture sur comment est-ce qu'on peut faire à nouveau du théâtre ensemble. Le spectacle Un lapin autre chose, c'est ce type d'écriture-là qui part de ce contexte. En l'occurrence, on fera cette performance dans une galerie d'art, dans un centre d'art, qui raconte comment est-ce qu'on peut partir d'un contexte donné. Et là, c'est cette relation entre ces deux personnages qui va créer la forme. Oui.
Je rebondis du coup sur cette Amicale de production, qui est une structure qui a été créée il y a plusieurs années maintenant par Antoine Defort, Julien Fournet et Alori Goerger. Vous allez proposer une création d'eux aussi dans le festival. Ils sont assez proches, eux, de ce que fait un certain théâtre, notamment au nord de l'Europe. Et cette année, vous mettez à l'honneur le jeune spectacle néerlandais.
Oui.
Quel est le rapport pour vous entre justement ce type de théâtre-là, tel qu'il est pratiqué à cet endroit-là de l'Europe, et justement la pratique du commun ?
Dans le nord de l'Europe, il y a une redistribution des héritages esthétiques peut-être un peu plus forte qu'en France, c'est-à-dire que la tradition du happening, la tradition de la performance, toute une veine qui venait des années 70 des arts visuels a été redigérée, redistribuée dans l'œuvre d'artistes qui travaillent sur la performance, sur le plateau. Et donc, il y a bien sûr une parenté de cette jeune génération artistique du nord de l'Europe et puis de toute une jeune génération aussi française, mais on pourrait aussi citer Julien Gosselin, mais qui n'est pas dans le cabaret, mais qui est artiste associé aussi au Phénix et qui a été nourri par les démarches de Yann Fabre, de Guy Cassiers, d'Ivo Vanov, bien sûr, et je crois que c'est cette place du texte qui est peut-être mis un peu
au second plan.
On a été beaucoup marqué par la querelle d'Avignon en 2004, théâtre de texte versus théâtre d'image. Et en fait, la question n'est pas là. Je crois que c'est pas duel déjà. Texte et image ne s'opposent pas. Mais c'est surtout comment est-ce que l'espace de la représentation du théâtre prend en charge aussi tout un nouvel écosystème avec le développement des nouvelles technologies qui changent complètement le rapport au savoir, le rapport à la circulation des images. Et puis aussi le rapport au vivant, parce que le théâtre résiste dans cette capacité à mettre des gens en face d'autres gens pour partager une expérience, ce qui devient un lieu de plus en plus rare dans la société.
Un grand merci à vous, Romaric Daurier. Je rappelle que vous dirigez le Phénix, qui est la scène nationale de Valenciennes, le festival Cabaret de Curiosité, qui d'ailleurs sortira des murs du Phénix. Vous l'avez dit, il y aura plusieurs lieux. Ce sera du 28 février au 3 mars prochain. Merci beaucoup.
Merci.
Il nous reste à vous donner rendez-vous demain à 21h pour une dispute consacrée au cinéma en compagnie de Charlotte Garçon, Lucille Como, Thierry Chaise et Antoine Guillot, à notre affiche Loving de Jeff Nichols, Certaines femmes de Kelly Reichardt et Chez nous de Lucas Bellevaux. Bonne fin de soirée à l'écoute de France Culture. À 22h15, les discussions du soir et dans quelques instants, le journal de la rédaction.